La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message. Moi, j'ai entendu dire que Kourou avait découvert une nouvelle exoplanète. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Au CNES, celui qui sait, c'est Olivier Lamarle, responsable des programmes d'astrophysique. Allô, Olivier ?
Ouais.
Quel est donc ce nouvel objet découvert par Kourou ?
Kourou a découvert une exoplanète de type Jupiter, c'est-à-dire à peu près de la taille et de la masse de Jupiter, qui a la double particularité d'avoir une température tempérée, c'est-à-dire pas trop chaude, pas très chaude comme celle qu'on connaît jusqu'à présent, et d'être en transit, c'est-à-dire de passer entre l'étoile et nous à chacune de ses révolutions, qui est une nouveauté pour ce type de planète.
Alors justement, pourquoi le fait d'être en transit rend-il cette planète si unique ?
Effectivement, des exoplanètes tempérées, entre guillemets, on en avait déjà découvert un certain nombre, mais c'est la première qui est en transit, donc qui produit des mini-éclipses en passant devant son étoile. Et quand elle passe devant son étoile, la lumière de l'étoile est en partie masquée par la planète, mais elle est aussi en partie filtrée par l'atmosphère de cette planète. On voit donc un petit peu, on voit la lumière de l'étoile à travers l'atmosphère de la planète, ce qui permet, en analysant la lumière reçue, de tirer des informations précieuses sur la composition de cette atmosphère.
Alors, en quoi la méthode de détection par transit est-elle si intéressante ?
Alors, elle fournit le plus d'informations parce que, effectivement, on peut analyser l'atmosphère de la planète. On peut également déduire le rayon de la planète, ce que ne permettent pas les autres méthodes. En revanche, elle a un inconvénient, c'est que la proportion d'exoplanètes qui passent devant leur étoile, entre leur étoile et nous, est assez faible, statistiquement. C'est un coup de chance. Donc, on ne découvre pas la majorité des exoplanètes comme ça. Mais par contre, celles qu'on découvre comme ça, on peut les analyser beaucoup plus profondément que les autres méthodes.
Et ces autres méthodes sont ?
La principale autre méthode utilisée jusqu'à présent, c'est la méthode des vitesses radiales. La planète tourne autour de son étoile, comme notre Terre autour de son Soleil, mais elle fait également un petit peu bouger son étoile par gravité, parce que la planète est beaucoup plus légère, mais elle a quand même une masse qui n'est pas négligeable. Et donc l'étoile bouge un petit peu, chaque passage de la planète, l'étoile se déplace un petit peu, elle fait également des petits cercles. Et on peut mesurer depuis la Terre les variations de vitesse des étoiles, et en déduire que des planètes sont en orbite autour, en analysant ces vitesses radiales. Donc, la variation de vitesse de l'étoile.
Mais est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que la méthode des transits qu'utilise Kourou est plus efficace ?
Elles sont très complémentaires parce que la méthode des transits de Kourou en particulier a besoin de la méthode des vitesses radiales pour confirmer la planète. Parce que la méthode des transits détecte des candidates qui peuvent être des fausses candidates. D'autres étoiles, par exemple, qui tourneraient autour de l'étoile qu'on vise. Et aussi, la méthode des vitesses radiales permet d'accéder à la masse de la planète, que ne permet pas la méthode des transits. Donc on voit qu'avec l'une, on a le rayon, avec l'autre, on a la masse. Donc c'est deux méthodes vraiment très complémentaires.
Alors revenons à notre nouvelle candidate. Que sait-on d'elle ?
Kourou 9b est intéressant parce que c'est une planète tempérée qu'on va voir en transit. Donc c'est une planète dont la température moyenne de surface devrait être, selon les modèles, autour de 100 degrés pour fixer les idées. Alors ça peut paraître un peu chaud, mais il faut savoir que les autres planètes de ce type découvertes jusqu'à présent étaient plutôt de l'ordre à 1000 degrés. Et alors, elle est intéressante parce que si on n'espère pas trouver des traces de vie sur cette planète, puisque c'est une planète gazeuse comme Jupiter, il se pourrait qu'elle ait des satellites elle-même, tout comme Jupiter à Encelade, par exemple. Et ces satellites autour de Kourou 9b pourraient, eux, avoir une température qui soit beaucoup plus proche de ce qu'on attend pour le développement d'une vie. Donc c'est en cela que c'est une candidate très intéressante.
Alors c'est quoi le rêve pour un chercheur d'exoplanètes ?
Le graal absolu pour les chercheurs d'exoplanètes, ce serait de trouver une planète tellurique tempérée. C'est-à-dire une planète type Kourou 7b, mais qui ne soit pas à 1500 ou 2000 degrés comme Kourou 7b, mais qui soit à des températures proches de celles de Kourou 9b par exemple, où là on pourrait imaginer possible le développement d'une vie. Donc une petite planète tellurique, je dirais, loin de son étoile pour être à des températures tempérées. Voilà le Graal.
Merci, Olivier Lamarle.
Ah merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
tous les sens.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Anomalie. 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 L'espace est un univers impitoyable. Le simple fait d'y accéder demande la mise en œuvre de technologies incroyablement raffinées. Le moindre défaut, la plus petite imperfection peut mener à l'échec. C'est pourquoi l'industrie spatiale est le royaume des normes. Chaque composant d'un lanceur ou d'un satellite doit satisfaire à un cahier des charges extrêmement rigoureux. Et tout ce qui dévie de la norme, aussi légèrement que ce soit, est qualifié d'anomalie. Lors des lancements d'Ariane, parmi les innombrables données retransmises vers la Terre, il arrive qu'on détecte de ces anomalies. La plupart du temps, elles sont mineures et leurs causes rapidement identifiées et corrigées. Mais certaines sont plus coriaces et leur origine beaucoup plus difficile à élucider. Ces anomalies-là sont bien sûr les plus redoutables, car comme l'iceberg du Titanic, elles peuvent être la petite partie visible d'un péril en réalité beaucoup plus grand. Démarre alors une véritable enquête judiciaire qui peut aller jusqu'à des campagnes d'essais en grandeur réelle. Poussée dans ses derniers retranchements, l'anomalie finit par livrer ses secrets, donnant le jour à une nouvelle norme, plus rigoureuse encore que la précédente. Au final, qu'est-ce qu'une anomalie ? Une possible cause d'échec, qui, prise en compte dès ses premières manifestations, devient en fait une clé du succès.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Demandez la Lune. Demander la Lune est, dans de nombreuses cultures, le symbole ultime du désir. La Lune, en 1961, John Kennedy l'avait à la fois promise et exigée de son pays comme signe de la supériorité américaine sur le grand ennemi d'alors, l'Union soviétique. 8 ans plus tard, à l'issue d'une intense compétition, les astronautes de la NASA plantaient le drapeau de leur pays dans le sol lunaire et y laissaient, ainsi que dans la mémoire de l'humanité, l'empreinte de leurs pas. Tout le monde était alors persuadé qu'il en serait rapidement de même sur la planète Mars et au-delà. 4 décennies se sont écoulées, 40 années riches en succès mais aussi en échecs. Pour les plus enthousiastes comme pour l'opinion publique, le retour sur la Lune puis l'envol vers Mars était simplement retardé, faute de moyens économiques et de volonté politique. Or le 2 février dernier, l'administration Obama et la NASA ont annoncé l'abandon du programme Constellation qui devait permettre aux États-Unis de retourner sur la Lune. Stupéfaction, déception, sentiment de trahison, comment l'homme du « We Can » pouvait-il briser aussi brutalement ce qui apparaissait jusqu'alors comme l'incarnation même du rêve américain ? En fait, derrière les bonnes et assez évidentes raisons d'abandonner le programme Constellation, il y avait une volonté affirmée et réfléchie de provoquer une véritable rupture. Une rupture technologique d'abord. Il est par exemple question de mettre au point des moteurs électriques alimentés par un réacteur nucléaire qui permettraient d'atteindre Mars en quelques semaines et non plus en plusieurs mois. Une rupture psychologique aussi. Pourquoi répéter le programme Apollo, mais mis au goût des technologies du jour ? Est-ce là pour suivre le rêve de nouvelles frontières dont le peuple américain est si fier? Provoquer cette rupture, abandonner l'évidence lunaire vieille d'un demi-siècle, ne pouvait se décider sans un réel courage politique. Les responsables américains l'ont fait. À l'Europe de revoir ses propres objectifs, stratégies et programmes spatiaux. Penser et agir. À l'annonce de cette rupture provoquée, je me suis rappelé la définition que Michel Foucault donnait de l'éthique. Elle convient, j'en suis persuadé, à la décision américaine. Car celle-ci n'a de sens qu'à la condition d'être articulée un appel fort et clair à l'imagination. Il est temps d'outrepasser les limites imposées par l'habitude, les intérêts ou même la facilité, d'outrepasser les limites de la connaissance et de la maîtrise technologique. Jamais, au cours des dernières décennies, face à des défis qui paraissent parfois la dépasser, l'humanité n'a peut-être eu autant besoin de chercher à décrocher la Lune. Encore faudrait-il savoir quelle lune ?
Alors allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Piévé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre? C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi.
Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est
mieux. Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
oui,
qui?
Non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là, en bas.
Oui. Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre? C'est qui a les clés?
Allez, à la prochaine.